Quel destin étonnant, celui de Jean le Baptiste, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance. Et comme je vous le disais au début de cette célébration, seules de trois personnes nous célébrons la naissance dans le calendrier liturgique, Jésus, Marie et Jean le Baptiste. C'est dire qu'au regard de l'Église et donc au regard des croyants, le statut de Jean le Baptiste est tout à fait particulier, parce qu'à travers la célébration de sa naissance, c'est son statut de précurseur que l'on met en avant. Et c'est un destin tellement étonnant, qui a commencé déjà de façon étonnante par cette annonciation faite à son père Zacharie, et vous avez en mémoire comment ça s'est terminé, et Zacharie qui dit, mais alors que l'ange venait lui annoncer la bonne nouvelle d'une descendance, lui dit, mais non, mais je suis âgé, et ma femme aussi, comment est-ce que ça va être possible? Et il se met un peu à douter, et l'ange a dû, mais je suis moi, Gabriel, qui suis devant le Seigneur, et je te dis, moi, que tu vas avoir un fils. Et par manque de foi, eh bien, il est resté muet, jusqu'au jour de cette naissance. Et donc, c'est un destin étonnant parce que dans la vie de Jean le Baptiste, tout, j'allais dire, dans sa vie, est en référence au Christ. Que ce soit sa naissance, sa conception d'abord, sa naissance, sa mort, tout est en référence au Christ. Et c'est pour ça que on l'invoque, nous, comme disciples de Jésus, pour que notre vie soit aussi une annonce du Christ. Alors, pas de façon aussi extraordinaire que la vie de Jean le Baptiste, parce que déjà dans sa conception et sa naissance, il a dû faire mémoire de ça. J'imagine qu'on lui a raconté comment ça s'est passé, pourquoi il ne porte pas le nom de son père, parce que avec Jean le Baptiste se termine l'Ancien Testament, se termine cette manière aussi de porter le nom de sa propre lignée. Il est comme la charnière de l'ancien et du nouveau. Il y a une nouveauté dans Jean le Baptiste dont son nom témoigne. Mais on imagine qu'il a dû savoir, l'Écriture ne le dit pas, mais c'est tout à fait probable, comment s'est passée sa conception, sa naissance. Il a dû avoir une fréquentation de son cousin Jésus, jouer peut-être ensemble, mais progressivement est apparue, comme progressivement dans la vie du Christ, cette mission particulière de celui qui annonce, de celui qui est le précurseur et qui vit dans la foi de quelque chose qui doit venir et qui n'est pas encore présent. C'est énorme, au fond, cette attitude de foi de Jean le Baptiste. Je ne suis pas digne de défaire les sandales, alors que lui-même, en parlant du Christ, je ne suis pas digne de défaire les lacets de ses sandales, alors que lui-même avait un certain succès, on peut dire, missionnaire. Il baptisait dans l'eau, pas un baptême de repentance, mais il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Il était connu. Et à un moment donné, quand il a rencontré le Christ dans son âge adulte et dans sa mission de sauveur, il a eu cette intuition de remettre ses premiers disciples, les Jacques et Jean, qui le suivaient. Eh bien, il dit non, ne me suivez plus maintenant. C'est lui qu'il faut suivre. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et de ce moment-là, les disciples de Jean-Baptiste sont passés à être disciples de Jésus. C'est dire comment, au fond, il nous enseigne que toute vie chrétienne, même si, est au fond un décentrement de nous-mêmes et un recentrage sur le Christ. Toute vie chrétienne est un appel à nous remettre vraiment complètement dans cette dépendance, dans cette suite, dans cette lumière. Et on voit que Jean le Baptiste, sa vie durant, dit « Moi, je ne suis pas la lumière, je suis juste la lampe. » qui porte la lumière. Je suis juste là pour annoncer. C'est important que, peut-être c'est encore plus vrai pour quand on est prêtre, que l'on ait devant le regard, devant les yeux, l'exemple de Jean-Baptiste. Parce qu'il y a des personnes parfois qui s'attachent à nous, parce qu'on leur fait du bien, un bien spirituel. Mais comme il est important que le prêtre, à l'exemple de Jean le Baptiste, eh bien dit non, ce n'est pas moi qu'il faut suivre, ce n'est pas m'attacher, s'attacher à ma personne. Je passe. C'est s'attacher au Christ dont les paroles ne passent pas. Et c'est un exercice toujours de certaine mort à soi-même pour remettre les personnes qui sont au contact du prêtre dans la suite du Christ et non pas dans leur suite à eux. Et malheureusement, parfois, certains témoignages sont donnés de prêtres qui s'attachent trop les personnes, mais ce n'est pas leur rendre service. Ce n'est pas leur rendre service. Et donc, bien sûr qu'on peut être touché par tel ou tel prêtre qui nous fait du bien, etc. Et de même que beaucoup de gens ont suivi Jean le Baptiste et Jean leur a fait du bien, mais il a toujours remis dans cette humilité, dans cette... Vraiment... Et ça, on imagine que ça n'a pas été sans combat. On se rappelle le combat spirituel qu'il a vécu lorsqu'il a été emprisonné. Il a envoyé, vous vous souvenez, ses disciples voir Jésus, mais « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Parce qu'il ne voyait rien qui advenait, parce qu'il pensait à un royaume terrestre, à une venue à la manière humaine. Et Jésus de répondre avec le livre d'Isaïe, les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres sont consolés. Il a eu son combat spirituel à la fin de sa vie. Est-ce que toute ma vie, au fond, n'a pas été qu'illusion? Est-ce que toute ma vie n'a pas été que un grand raté, au fond, d'un homme en qui je croyais et je ne vois rien qui vient, je ne vois rien qui de ce royaume dont je pensais à la manière humaine qui allait se développer, je ne vois rien de ça. Mais doit-on en entendre un autre? Et dans nos vies, c'est souvent, ça peut passer, ce combat spirituel, lorsqu'on voit le mal triompher, lorsqu'on voit... au fond que les choses avancent peu en nous et autour de nous. Et on se dit, mais est-ce qu'on a raison de suivre Jésus? Est-ce qu'on a raison d'être croyant? Parce qu'au fond, notre vie et la vie de foi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est croire en quelque chose qui va advenir, exactement comme Jean le Baptiste. Il n'en avait pas la claire vision. Le croyant, il a cette confiance dans les paroles de Jésus et ces paroles vont advenir. Alors, je trouve que c'est beau si nous sommes dans un combat spirituel, que nous puissions aussi nous confier à la prière de Jean le Baptiste et à la prière de tant de saints qui ont vécu ces moments de doute, ces moments d'épreuve spirituelle. Et Jésus lui-même, lorsque il est avec ses disciples et qu'il voit à la fin du discours du pain de vie, il annonce « Je suis le pain véritable qui mange de ma chair et boit de mon sang aura la vie éternelle », eh bien beaucoup quittèrent le Christ. Et il s'adresse à ses apôtres en disant « Et vous, vous voulez partir aussi ?» Et Pierre, cette phrase énorme, « Mais à qui irions-nous, Seigneur ?» À qui irions-nous ? Alors c'est beau de méditer sur cette vie tellement étonnante, cette vie qui nous appelle à l'humilité sans cesse, qui nous appelle à la foi, qui nous appelle à la simplicité. Cette vie de Jean le Baptiste qui aussi, au moment de la fin, eh bien, a questionné Hérode et lui a dit, pourquoi as-tu épousé la femme de ton frère, etc. Et il le questionnait. C'est un prophète, c'est le dernier des prophètes. Pour nous chrétiens, c'est le dernier des prophètes. Il questionnait. Et il avait tout d'un prophète, que ce soit dans son habillement, dans sa manière de vivre. Voilà, il est prophétique. Toute sa vie est annonce, de sa conception jusqu'à sa mort. Il n'a rien transigé de la suite du Christ. Alors je trouve que c'est beau pour nous de nous remettre dans cette lignée-là, dans cette humilité, dans cette confiance de Jean le Baptiste. Une personne humaine comme nous, pécheur comme nous, mais qui a eu cette grande lucidité tout au long de sa vie. Et il a fait certainement, pour tenir dans sa mission, il a fait certainement mémoire de cette naissance miraculeuse que nous fêtons aujourd'hui. Et pour nous aussi, comme croyants, lorsque nous sommes dans l'épreuve, comme c'est intéressant de pouvoir aussi faire mémoire. Nous avons, si nous sommes ici, eu des temps de rencontre particuliers avec le Seigneur. Si nous sommes ici, c'est que nous avons été appelés. Nous avons été touchés par la grâce de Dieu à certains moments de notre vie, que ce soit des moments d'épreuve ou de grande joie. Mais le reste de la vie du chrétien, somme toute, est une vie assez simple, ce n'est pas fait d'extase, mais de mémoire. De mémoire, c'est-à-dire, je fais mémoire de ce que j'ai reçu comme grâce, et je ne peux pas dire que je n'ai pas reçu une grâce à tel moment, à tel autre. Même si aujourd'hui, croire m'est difficile. C'est un homme qui a fait mémoire toute sa vie, de sa naissance et de sa conception miraculeuse. Alors puissions-nous, nous aussi qui faisons mémoire, la célébration de l'Eucharistie, c'est ça. Nous faisons mémoire de Jésus qui se donne pour nous, pour nous donner sa vie éternelle. Et puissions-nous de mémoire en mémoire, eh bien, arriver à contempler la grâce de Dieu, arriver à contempler Dieu face à face. Puissions-nous demander à Jean-Baptiste de voir cette mémoire non pas comme une faculté, comme quelque chose du passé, mais comme une faculté du présent. C'est ça le chrétien. Il vit la mémoire comme quelque chose de présent. Et c'est pour ça que quand je vais consacrer le pain et le vin, c'est présence réelle du Seigneur sur l'autel. Parce que la mémoire nous renvoie au présent. Et nous avons toujours besoin d'une présence pour tenir dans la foi. Alors demandons à Jean le Baptiste cette grâce particulière de la foi et invoquons-le pour que nous soyons les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.